Bonjour, Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 24 décembre 1942, l'assassinat de l'amiral Darlan. En cette veille de Noël 1942, il fait un temps splendide à Alger. Au palais d'été, résidence du haut commissaire, une voiture s'arrête dans la cour peu avant 15 heures. L'amiral François-Xavier Darlan en descend. Il se dirige vers son bureau. Dans l'antichambre, un jeune homme attend, mince, élégant. Un coup de feu retentit, suivi d'une seconde détonation. L'amiral s'effondre. Le jeune homme tient un revolver à la main. Il est difficilement maîtrisé. Pressé de questions, il déclare s'appeler Moran. En réalité, il se nomme Fernand Bonnier de la Chapelle. Fils d'un notaire devenu député du Lot-et-Garonne, diplômé de l'école navale, Darlan est un valeureux combattant de la Première Guerre mondiale. Major des hautes études navales en 1925, il devient contre-amiral en 1929, puis chef d'état-major de la marine en 1937. Grand croix de la Légion d'honneur, il est élevé au grade d'amiral de la flotte en juin 1939. Il est nommé ministre de la Marine dans le gouvernement de Philippe Pétain le 16 septembre 1940. Le 13 décembre, Pétain renvoie Pierre Laval, jugé trop favorable à l'Allemagne nazie. Darlan lui succède à la tête du gouvernement de Vichy. Le 18 avril 1942, Pétain rappelle Laval. Darlan abandonne alors toutes ses fonctions gouvernementales. Il demeure toutefois commandant en chef des armées de terre, de mer et de l'air. Darlan n'éprouve aucune sympathie pour le nazisme. Il est néanmoins persuadé de la victoire allemande. Fidèle à Pétain, il est pragmatique. En juin 1941, il déclare à l'amiral William Leary, ambassadeur des États-Unis à Vichy, « Si les États-Unis sont à même de débarquer à Marseille 500 000 hommes, 3 000 chars et 3 000 avions, moi, Darlan, je suis prêt à marcher avec vous. » Le temps passe et aucune réponse américaine ne confirme cette proposition. Cependant, dans les premiers mois de 1942, Darlan renouvelle son état-major. Il remplace les officiers collaborationnistes par d'autres favorables aux puissances alliées. La certitude du triomphe de l'Allemagne s'estompe. En septembre 1942, Alain Darlan, fils de l'amiral, sollicite un rendez-vous avec Robert Murphy, représentant personnel du président Franklin Roosevelt en Afrique du Nord française, pour lui transmettre quelque chose de la part de son père. Retenu aux États-Unis, Murphy fait recevoir Alain Darlan par Félix Kohl, conseiller général, consul général américain à Alger, qui s'en ouvre à Jean Rigaud, l'une des cinq personnalités qui élabore les plans du débarquement en Afrique du Nord. Les Américains sont alors en quête d'un chef français indiscutable, à l'appel de qui l'Afrique du Nord pourrait se soulever le jour J. Perçu comme l'homme des Anglais, Charles de Gaulle est écarté. Certes, il existe bien un modeste mouvement gaulliste en Algérie, avec notamment René Capitan, mais son autorité paraît inexistante. Le général Henri Giraud, qui vient de faire allégeance à Pétain, est l'homme de la situation. Toutefois, il est hésitant. Il souhaite reprendre les armes, mais il considère que l'opération militaire doit se jouer en métropole, avec les 100 000 hommes de l'armée d'armistice soutenus éventuellement par un débarquement américain en Provence. Finalement, En juin 1942, le général Giraud se rallie à l'idée d'un débarquement en Afrique du Nord. Il accepte de se rendre le moment venu en Algérie pour y prendre le commandement des forces françaises. Le 28 octobre 1942, Murphy informe le général Giraud que le débarquement est fixé au 8 novembre. L'action débute la veille à 23h30, l'effet de surprise est total, Alger est rapidement aux mains de la résistance. Murphy demande à Darlan de rejoindre le mouvement. Refusant de trahir son serment envers Pétain, il communique avec lui par fil direct, ignoré des Allemands. Le chef de l'État français lui répond « Vous savez que vous avez toute ma confiance ». Darlan interprète cela comme une sorte de blanc-seing. Il est maintenant persuadé de la nécessité de traiter avec les Américains. Au début de l'après-midi du 8 novembre, le général Join, sur l'ordre de Darlan, signe la reddition d'Alger. Le lendemain, le général américain Clark rencontre Darlan. Il lui affirme que 150 000 hommes ont débarqué, ce qui est inexact, et le presse de signer un armistice. De nouveau, Darlan consulte Pétain par la ligne télégraphique secrète. Le chef du régime de Vichy répond qu'il est pleinement d'accord. Il précise qu'il ne peut donner d'instructions définitives sans consulter Laval, parti conféré avec Hitler. Darlan envoie un nouveau message à Pétain l'informant que les officiers de son entourage estiment urgent de cesser le combat. Le 10 novembre à 10h, Clark retrouve Darlan. Le climat est orageux, l'officier américain n'admet plus aucune tergiversation. Il laisse 30 minutes à Darlan pour se décider sous peine d'être mis en état d'arrestation. L'amiral franchit alors le Rubicon. À 13h, Giraud est informé de la décision de Darlan, qui incarne désormais l'autorité suprême en Afrique du Nord. La carte Giraud n'existe plus. En métropole, les événements se précipitent. Les troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation et envahissent la zone libre. Conscient du risque qu'encourt la flotte mouillée à Toulon, Darlan lui ordonne de gagner Dakar. L'amiral de Laborde refuse d'obtempérer et à l'approche des Allemands donne l'ordre à la flotte de se saborder. La rupture de l'armistice par l'Allemagne et la protestation solennelle de Pétain donne définitivement les mains libres en Afrique du Nord à Darlan. Dorénavant, il s'exprime au nom du maréchal prisonnier. Dès son arrivée à Alger, le général Eisenhower le présente comme le meilleur ami des États-Unis. À Londres, la presse britannique se déchaîne. Elle accuse les Américains d'avoir enfreint les règles les plus élémentaires de la morale en mettant en place en Afrique du Nord le tenant de la collaboration avec l'Allemagne nazie. L'amertume du général de Gaulle et des combattants de la France libre est immense. Seuls, depuis 1940, ils estiment avoir sauvé l'honneur de la France. Or, ils sont tenus à l'écart. Aux États-Unis, la presse exprime sa gêne et même parfois son hostilité. Plus les semaines passent et moins à Alger, la position de Darlan paraît confortable. Le chef des gaullistes, René Capitan, orchestre une campagne de dénigrement. Sur les murs, il est possible de lire « Darlan est un traître » ou bien « Tuer Darlan » ou encore « L'amiral à la flotte ». Si une majorité de Français d'Algérie admet encore l'autorité de Darlan, une minorité de plus en plus agissante estime que tous les problèmes seraient résolus s'il quittait le pouvoir. C'est dans ce contexte tendu que survient son assassinat. Nous allons marquer une pause dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire « Un jour, trois livres » préparée par Emmanuel. C'est Johnny Hallyday qui nous accompagne en chanson à l'occasion du 5e anniversaire de son décès. Nous écoutons l'un de ses tout premiers succès. C'était en 1964, le pénitencier.
J'ai partagé pénitencier. Bientôt m'en sais fermé. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a tenu sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas levé pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Et demain, tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais ton garçon seul la nuit traîner dans les rues. Ils iront tout droit en prison.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, quatre aujourd'hui exceptionnellement, préparés par Emmanuel et que j'ai plaisir à vous présenter. Nous commençons par Aliénor d'Aquitaine. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est signé Marie-Noël Demey aux éditions Presse de la Cité. En 1200, en plein hiver, Aliénor d'Aquitaine, la deux fois reine, au soir de sa vie, 4 ans avant sa mort, va chercher sa petite fille dans le royaume de Castille pour sceller une trêve dans la guerre que se livrent les Capétiens et les Plantagenets. Celle-ci doit épouser Louis, le Capétien, le fils de Philippe Auguste. Aliénor doit choisir l'aîné, Urraca. Finalement, elle préférera la cadette, Blanca, une très jeune infante, certes rêveuse, mais d'une remarquable intelligence. Les voilà partis dans un long et périlleux itinéraire à travers les Pyrénées en direction de Bordeaux. Ce sera un voyage de formation pour la toute jeune épousée, formation au métier de reine, initiation à celui de femme, Blanca, c'est la fameuse Blanche de Castille, au matin de sa vie de reine. Aliénor d'Aquitaine, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est signé Marie-Noël Demey et c'est publié aux éditions Presse de la Cité. Le dernier vol, Single Lady de John Monk Saunders aux éditions Quai Voltaire. Dans les années 1920, cinq jeunes vétérans de l'armée de l'air, Shepard Lambert, Bill Talbot, Johnny Svan, Kerry Lockwood et Francis D. Le Vachout se retrouvent à Paris après l'armistice, livrés à eux-mêmes. Incapables de reprendre leur souffle, ils semblent n'avoir qu'un but, celui de se noyer dans l'alcool. Ils rencontrent Nikki, jeune américaine esselée à Paris, et l'embarquent dans leur tournée spectaculaire des bars parisiens, puis des cafés de Lisbonne et des corridas madrilènes. Publié en feuilleton dans le magazine Liberty en 1930 sous le titre « Single Lady », ce roman est inspiré de l'existence de Saunders, mais aussi d'une certaine façon de celle d'Hemingway. Il fut adapté au cinéma peu après sa parution sous le nom du Dernier vol, un film sur une génération perdue. Le Dernier vol, Single Lady, de John Monk Saunders, s'est publié aux éditions Quai Voltaire. Argonne de Stéphane Aymon aux éditions La Table Ronde dans l'excellente collection Vermillon. En juin 1940, comme des milliers de Français, une famille fuit son village d'Argonne. 80 ans plus tard, tandis que l'auteur refait ce voyage jusqu'à un village de l'Aube où sa grand-mère fut tuée par le mitraillage d'un avion allemand, les souvenirs affluent. Son père, paysan et menuisier, comme ses ancêtres, enraciné au seuil de la grande forêt, sa mère qui divague, les voisins, les maisons, la guerre et plusieurs fois en un siècle fit passer le fer et les flammes sur cette terre des confins de Champagne et de Lorraine. Voici l'histoire de la famille de l'auteur, mais aussi celle de bien des familles de l'Argonne. Argonne, c'est signé Stéphane Aymon et c'est publié dans la collection Vermillon aux éditions La Table Ronde. Et je termine cette chronique par La Messe de l'Assassin, c'est le nouveau Christian Jacques, publié aux éditions XO. Voici un nouvel opus des enquêtes de l'inspecteur Higgins. Cette fois-ci, elle débute par des funérailles, celles de Peter Lewis Busini, accusé des pires turpitudes par un jeune homme dont les parents ont monté un dossier contre le défunt et ont été fort opportunément assassinés. Qui était vraiment le défunt? Que contenait le dossier? Le défunt était-il le cerveau de ces assassinats? Une bien étrange affaire criminelle et surtout hautement sensible. Voilà ce que nous propose ce nouvel opus de Christian Jacques intitulé « La messe de l'assassin » s'est publié aux éditions XO. Voici la fin de cette émission Historama. Je remercie Thomas qui l'a réalisé et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle narration historique. C'est en chanson que nous nous séparons avec toujours Johnny Hallyday, un titre de 1971, Que je t'aime.
Dans tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes, des forêts et les îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime. Quand ta bouche fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, d'une toute petite voix. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Que je t'aime, moi je t'aime. Quand mon cœur sur ton cœur, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime. Je t'aime.